Et bien évidemment, dans les conversations avec Daniel Habert, on va se pencher sur l'impact du renversement du pouvoir en Syrie de Bachar al-Assad et de ses conséquences sur toute la région. Daniel Habert répondait aux questions de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour très chers amis.
Merci d'être avec nous hein, ce matin, comme tous les lundis matins, pour décrypter la géopolitique mondiale. Et puis cette semaine, eh bien, on va parler de la situation en Syrie et de ses répercussions. Hein. Le week-end dernier, Bachar al-Assad a fui son pays. Les rebelles de HTS ont pris le pouvoir. On a beaucoup parlé de cette situation sur Radio Judaïka, mais on aimerait avec vous, Daniel Habert, une analyse géopolitique. Quelles sont les significations pour la Syrie elle-même?
Bon, ben d'abord les djihadistes, hein, parce que ce sont des djihadistes, n'ont pas encore pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir sur la capitale et sur un certain nombre de villes. Ils n'ont pas encore le pouvoir sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, Assad lui-même ne l'avait plus. Et donc, il y a en ce moment en cours des négociations pour un gouvernement avec des alliances qu'on ne connaît pas. La principale conclusion qu'on peut dire, c'est qu'un régime chiite a été renversé par un régime sunnite, et pas n'importe lequel. Des djihadistes qui sont liés à l'organisation la plus puissante du sunnisme radical, de l'islam politique mondial, qui sont les frères musulmans. Donc, pour les Syriens eux-mêmes, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On va tomber de Charybde dans Silla. On va troquer un diable contre un autre diable. Et donc, les scènes de liesse, elles sont, hélas, probablement temporaires. Puisque vous m'interrogez sur la Syrie elle-même et ses conséquences pour la Syrie, il faut d'abord remarquer que ce pays est un pays fragmenté, d'ailleurs dès sa naissance. Le découpage de l'Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale, sous le mandat français notamment, a fait que dans cet État-nation nouveau qui s'appelle la Syrie, il y a beaucoup d'ethnies et beaucoup de religions qui pourraient d'ailleurs vivre ensemble, mais la politique des Assad, les 50 ans, au contraire, aggravé les rivalités et les animosités. Et le principal, et puis la guerre civile aussi des 10 dernières années a encore augmenté cette fragmentation, dont apparemment un peuple a tiré parti, c'est les Kurdes. La chute de Saddam Hussein avait permis au nord de l'Irak la constitution d'une véritable d'un début de Kurdistan, un pays pour les Kurdes. On dit une grande autonomie, ils ont même du pétrole, donc voilà le début de la naissance peut-être d'un nouvel État, le Kurdistan, dont on ne parle beaucoup moins que la cause palestinienne, mais les Kurdes ont autant le droit d'avoir un État que les Palestiniens. Curieusement, on n'en parle pas, enfin pas curieusement, puisque on sait pourquoi. Donc ces Kurdes, évidemment, c'est le vrai problème de la Turquie, parce que les Kurdes de Syrie plus les Kurdes d'Irak, s'ils étaient ensemble pour former une sorte de noyau d'un État indépendant, d'un Kurdistan, serait une puissante attraction pour la grande masse des Kurdes qui sont en Turquie. C'est un tiers du territoire turc. Donc pour les Kurdes turcs, c'est une ligne rouge. Et donc c'est pas étonnant que ce soit la Turquie qui ait armée et organisé ces djihadistes, parce que l'objectif principal de la Turquie, c'est d'effacer l'idée d'un Turkistan, au moins en Syrie, et évidemment pas du tout en Turquie. Donc Turquie qui devient partie, on n'avait pas beaucoup entendu parler de la Turquie, elle revient sur le centre du débat grâce à la Syrie. Et puis le jugement le plus clair sur le danger de ce groupe terroriste vient d'Israël, qui a tout de suite compris le danger mortel qu'il représentait, et ont pratiquement annihilé toutes les forces militaires du régime Assad pour qu'elles ne tombent pas dans les mains de ça. Donc il y a plus d'aviation, il y a plus de bateaux, il y a plus de stock de missiles, il y a plus grand chose. Et les Américains qui ont gardé des bases à la frontière Syro-Irak parce que c'était là qu'il y avait Daesh et que c'est HTS, ça semble bien une nouvelle version de Daesh, ont aidé Israël à terminer le travail. Donc cette intervention plus l'occupation d'une partie supplémentaire du Golan fait qu'Israël a très bien compris que c'était pas une bonne nouvelle pour les Syriens. Voilà ce qu'on peut dire sur la Syrie.
Daniel, vous avez mentionné la Turquie. Quel impact va avoir ce renversement du pouvoir en Syrie sur le Moyen-Orient?
Écoutez, on peut se demander quel Moyen-Orient va découvrir Trump dans quelques jours. On peut dire que l'année 2024 a beaucoup transformé le paysage, mais c'est surtout grâce à Israël. Israël a mené des batailles, plusieurs guerres sur beaucoup de fronts, 6, 7, qu'on lui a imposées. Il a beaucoup subi, il a beaucoup souffert, mais à partir du 1er avril 2024, Israël a compris que c'était l'Iran qu'il fallait provoquer et qu'il fallait dévoiler. Et depuis le 1er avril, Israël est à la manœuvre, à l'initiative. Et donc c'est lui qui a changé, c'est Israël qui a changé ce paysage du Moyen-Orient en mettant fin à l'organisation du Hamas. Elle n'a pas éradiqué le Hamas, mais il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de tête, ni politique, ni militaire, et il n'y a plus d'organisation. La même chose pour le Hezbollah, les têtes ont été coupées et l'essentiel du danger Hezbollah a disparu. Et puis surtout l'Iran est à la fois dévoilé comme artisan principal de l'instabilité du Moyen-Orient, et il est dévoilé en étant mis à nu puisqu'il n'a plus de défense aérienne. Les derniers coups du mois d'octobre ont mis l'Iran à poil. Donc c'est une victoire assez forte d'Israël qui permet à Trump, quand il va arriver avec des volontés de négocier, de pouvoir s'adresser à l'Iran qui n'est plus protégé par tous ces boucliers. L'Iran lui-même est affaibli d'abord par l'humiliation extérieure, mais aussi par des problèmes internes qu'on a déjà évoqués ici, la mort suspecte de Raïssi, la succession de Khamenei qui est très malade, et une société iranienne dont on sait que notamment les jeunes et les femmes sont révoltés contre ce régime complètement fou. Et puis, un mot des grandes puissances extérieures qui s'occupent toujours du Moyen-Orient. Bon, les États-Unis, on voit, reviennent sur le Moyen-Orient, l'ont jamais quitté, grâce à Israël d'ailleurs. Mais les deux grands acteurs extérieurs sont la Russie et la Chine. Et la Russie, elle a perdu sa seule base au Moyen-Orient, c'est la Syrie. Elle tente par tous les moyens de conserver ses bases navales et ses bases aériennes qui sont dans l'ouest de la Syrie, dans ce qu'on appelle le pays des Alaouites, donc une espèce de réduit qui va être défendu par les Russes. Que peut-être HTS va respecter. Et donc, ils espèrent au moins sauvegarder un minimum de présence sur la Méditerranée grâce à ces bases. Mais la Russie, prise par une Ukraine qui résiste beaucoup plus qu'il n'y pensait, n'est plus un acteur majeur. Et puis, il y a la Chine. Alors, la Chine, elle a au fond pas compris grand-chose à ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Elle a plutôt été aux abonnés absents. Et là, elle est complètement absente aussi de ce qui se passe. Et donc, pour Trump, hein, quand il va arriver, il a un paysage complètement déblayé. Il arrive avec, on va le dire comme ça en conclusion, en position de force.
Justement, Donald Trump, hein, il arrive le 20 janvier 2025 à la tête des États-Unis. Il est le président élu. Les circonstances lui sont-elles favorables et est-ce un espoir pour la région?
Ça pourrait l'être, mais quand on regarde à qui on a affaire, pour l'Ukraine, il aura affaire à Poutine, au Moyen-Orient, il aura affaire à Téhéran, et aux ayatollahs, et pour la Chine, il a affaire à Xi Jinping. C'est-à-dire, ça, c'est des costauds, ce sont des leaders qui sont humiliés, hein, tous les trois, et donc la réaction de dictateurs humiliés, elle est toujours dangereuse. Ils peuvent préférer à la négociation en position de faiblesse, parce que c'est ça qui va arriver, faire monter les enchères, prendre des risques, aggraver les affrontements. jouer la politique du pire. C'est pas du tout sûr. Pour la Russie, ça peut être continuer ces attaques qui sont de plus en plus dévastatrices sur l'Ukraine, peut même attaquer d'autres pays. Quant à l'Iran, son option, c'est continuer son programme nucléaire. C'est vrai que l'Iran a toujours dit qu'ils n'ont pas pris la décision politique de s'armer nucléairement, ils pourraient la prendre. Donc voilà. Quant à la Chine, ça va être la clé de tout, en fait, parce que la Chine, c'est la seule grande puissance face à la Chine, aux États-Unis, qui peut organiser un nouvel ordre mondial. Il n'y a pas de motif de conflit militaire entre les deux pays. D'ailleurs, ils ont toujours éliminé l'idée de se faire de la guerre, ça n'a pas de sens. Par contre, Trump a annoncé une forte guerre commerciale, une forte guerre technologique contre la Chine, qui est dévastatrice pour la Chine. Et donc la Chine peut être incitée à renforcer encore son appui à la Russie et à l'Iran pour justement démontrer aux Américains que toute politique agressive vis-à-vis d'eux se paye cher en désordre mondiaux, et que l'alternative, c'est asseyons-nous, Russie, États-Unis et Chine, et essayons de bâtir un ordre, chose que ni Trump, ni Biden, ni Obama n'avaient envie de faire. Donc voilà, on est une interrogation. Il y a les espoirs, parce que Trump aime négocier, donc on va commencer par négocier, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes, et Israël, qui est le premier concerné par le programme nucléaire iranien, va tout faire pour démontrer aux Américains que peut-être c'est le moment de frapper.
Et ça nous fera de la matière pour nos prochaines conversations dans les mois qui suivent. Merci beaucoup Daniel Habert d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.